Pendant les vacances, on a commencé une série sur les combats de la vie. C'était pour l'été, ça permettait de venir une fois sans avoir à connaître ce qu'on avait déjà vu la fois d'avant. Et dans cette série sur les combats de la vie, on a vu, c'était juste après le 14 juillet, l'attentat du 14 juillet, on a vu le combat contre les peurs qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous impressionner. Et puis ensuite, on a vu le combat contre les inquiétudes. C'est juste une question de degré, mais c'est vrai que souvent, on se pourrit la vie en se faisant du souci pour rien. Et on a vu des réponses dans la Bible sur ces peurs, sur ces soucis. Et puis la semaine dernière, on a parlé du you-you de yo-yo. Voilà. Donc si vous n'étiez pas là, tant pis pour vous. Et en fait, ça parlait du problème du contentement. Est-ce on veut toujours plus? On a vu qu'il y avait un domaine où c'était une bonne chose, celui de notre relation avec Dieu, de notre vie spirituelle, c'est bien de toujours vouloir davantage, mais en ce qui concerne le monde matériel, ce n'est pas nécessairement un bénéfice que d'avoir toujours envie de plus. C'est cette semaine qu'on va enfin avoir l'annonce de l'iPhone 7 et on a appris qu'il ne fallait pas vouloir à tout prix avoir l'iPhone 7. D'abord, ça coûte très cher. Et en plus, il y a plein de fonctionnalités qui vont vous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Aujourd'hui, pour clore cette série sur les combats de la vie, j'aimerais parler du combat le plus important parce que c'est le combat spirituel. Le combat spirituel qui est une réalité que nous n'aimons pas toujours reconnaître, parce qu'il y a des fois on aimerait bien ne pas avoir à être sur nos gardes, pouvoir se relaxer, pouvoir être tranquille. Mais la réalité des choses, c'est nous avons un adversaire, Satan, une personne réelle, un ange déchu, qui veut lutter contre l'œuvre que Dieu fait par Jésus-Christ, par sa parole, par son Saint-Esprit sur la terre. Et ce combat spirituel, c'est une réalité. Ce n'est pas seulement une façon poétique de décrire les aléas, les difficultés de la vie. C'est une réalité dont Paul nous parle, entre autres, Paul nous parle beaucoup dans sa parole, dans ses écrits plus exactement. On va regarder dans Éphésiens 6, si vous voulez vous tourner dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul écrit aux membres de l'église d'Éphèse et aussi aux chrétiens des autres villes dans lesquelles la lettre allait être lue, pour les mettre en garde, pour les encourager à vivre selon Dieu. Il leur explique qu'ils sont recouverts ou ils ont reçu toutes les bénédictions spirituelles qu'ils peuvent imaginer. Et il leur demande, il prie pour eux qu'ils aient la sagesse spirituelle. Il explique qu'en Christ, ils ont été sauvés. Ce n'est pas par la grâce. C'est par la grâce plutôt qu'ils ont été sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il explique, il prie pour un affermissement spirituel. Il explique que nous sommes appelés à vivre comme les membres d'un corps, comme des enfants de lumière. Nous devons vivre dans la lumière. Nous devons vivre aussi par la puissance de l'Esprit. Il nous indique comment vivre dans nos relations entre mari et femme, employeur-employé, enfant et parents. Et puis, il en vient au verset 10 du chapitre 6 à parler de ce combat spirituel. Et là, il nous dit « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Et puis il explique « En effet, ce n'est pas contre l'homme ou contre d'autres versions disent la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Satan, le diable, notre adversaire, il a toute une armée d'anges. Il est expliqué par ailleurs qu'un tiers des anges créés par Dieu ont suivi Satan dans sa rébellion et ce sont eux qui sont les instruments des manœuvres du diable. Et il est important de réaliser cette vérité qu'il y a un combat spirituel. Paul nous dit ensuite, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous votre taille. » Alors on appelle ça des fois la panoplie ou l'armure du chrétien. « Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin ou du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Donc une fois qu'on a revêtu toutes ces armes, on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de notre propos ce matin, mais il nous dit que lorsqu'on a revêtu toutes ces armes et ces éléments de l'armure, il nous dit, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Il ajoute même qu'il a besoin de prières lui-même pour ouvrir la bouche, pour pouvoir annoncer avec assurance le mystère de l'Évangile. Il demande la prière pour être un ambassadeur de Christ dans les chaînes. Il écrit de prison. Priez pour que j'en parle assurance comme je dois le faire. Mais ce matin, j'aimerais insister sur la prière. On remet cette armure pour être à même de faire en tout temps, à tout moment, par la direction de l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. On a, pour certains d'entre nous, pu passer du temps en Autriche à la conférence missionnaire. Et là, nous avons reçu deux enseignements sur la prière dont je vais m'inspirer pour vous parler de comment prier. On avait déjà vu dans Philippiens, lorsqu'on avait parlé des inquiétudes et comment se prémunir de l'inquiétude, des peurs, on avait lu dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Christ, en Jésus-Christ. Donc là, Paul faisait allusion à différents types de prières. Il y a la prière de demande, où on dit à Dieu nos besoins. On peut aussi faire des supplications. Ce sont des prières pour les autres. Et ça, c'est très important. Et en plus, il faut avoir l'attitude gratitude, avoir cette attitude de reconnaissance. On peut prier pour remercier Dieu. Et lorsque l'on pratique ces choses, on est envahi par une paix, la paix qui vient de Dieu, qui garde toutes nos pensées, tous nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est un des passages sur la prière, mais j'aimerais qu'on se tourne vers le fameux passage de Matthieu 6 ce matin. On va lire les versets 5 à 20. C'est Jésus qui enseigne. Fait partie de ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne, qui recouvre les chapitres 5, 6 et 7 de l'évangile de Matthieu. Mais là, on reçoit l'enseignement directement de Jésus-Christ, qui nous dit, verset 5, je lis dans la version second 21, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et puis là, après avoir dit des choses que nous ne devons pas faire, voici ce qu'il faut faire. « Voici donc, verset 9, comment vous devez prier. Notre Père céleste, on a l'habitude de dire notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom, je recite la version plus connue, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour l'année qui vient. » Non, notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation. D'autres disent « ne nous soumets pas à la tentation ou à l'épreuve », c'est le même mot en grec, « tentation » et « épreuve », mais « délivre-nous du mal ou du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Arrêtons-nous là. Jésus met en garde contre la prière hypocrite, qui consiste à prier pour impressionner les gens autour de nous, mais qui n'est pas un dialogue sincère avec Dieu. Il nous invite même à prier en secret, c'est-à-dire seul à seul. On verra que nous sommes aussi appelés à prier en groupe. C'est ce pourquoi nous nous réunissons le mardi matin, le mercredi soir. Une chose qui peut être un peu paradoxale, c'est lorsqu'il dit de ne pas imiter les païens, les gens des nations, des autres peuples, qui parlent beaucoup pour impressionner Dieu. Et il a cette phrase étonnante, « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » On peut se dire, « Bon, ben, si Dieu sait nos besoins, connaît mes besoins, pourquoi prier ?» Et là, ça nous indique qu'en fait, La prière, c'est pas seulement prier pour moi, mes proches, mon petit monde. Et il est intéressant de... Parce que Dieu sait, connaît ses besoins, et Dieu veut vous bénir et vous répondre à ses besoins. C'est bien de prier parce que ça nous permet de nous mettre au diapason de Dieu. Ça nous permet de prendre un peu de temps, seul à seul, avec Dieu. Non seulement pour pouvoir lui dire des choses, pour pouvoir faire silence devant lui, et aussi pour entendre ce qu'il a à nous dire. Le message que on a reçu sur ce texte par Brian Broderson, qui est le pasteur de Calvary Chapel à Costa Mesa en Californie, la grande église de Calvary Chapel, nous a dit qu'il avait été en fait frappé, parce que c'est un passage qu'on connaît tellement, on peut prier par cœur cette prière, mais qu'en fait, il est intéressant de voir cette prière du point de vue de Dieu. Et que cette prière, elle est là pour prier, pour demander que Dieu soit glorifié. Est-ce que c'est votre premier souci lorsque vous priez que Dieu soit glorifié ? Quand on prie le Notre Père, entre guillemets, on prie pour ça, mais souvent on pense plus à la partie qui nous concerne, le pain quotidien. On aimerait bien pouvoir demander le pain pour toute une année, mais Dieu nous demande de prier, d'être dépendant de lui, moment par moment, jour après jour. On aime bien aussi être pardonné de nos péchés, de nos offenses, d'être protégé, mais au bout du compte, lorsque Jésus donne cette prière à ses disciples, c'est la gloire du Père qu'il a en vue. Le thème de la conférence en Autriche, c'était « Cessez de vous agiter et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre ». Le but, c'était un peu de poser. On a tellement tendance à vouloir faire des choses, à vouloir évangéliser, à vouloir organiser, implanter des églises. Et de temps en temps, le plus souvent possible, d'après ce psaume, psaume 46, verset 10, il est bon de s'arrêter et de se rappeler qui est Dieu, qui agit. C'est pas moi, c'est Dieu le Père, c'est son Fils Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde. Et c'est vrai que en ce moment, nous vivons dans un monde qui semble aller de mal en pire. On a vécu, pour ceux qui étaient à Nice, et même pour les autres, à distance, on a vécu ces terribles... Ce terrible attentat du 14 juillet, certains ont été témoins de la débandade, d'autres ont été témoins de l'accident. Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas été directement affectés par des personnes blessées ou tuées dans l'assemblée. Mais on se dit, où va le monde ? Et quelques jours après, il y a ce prêtre qui a été égorgé, dans une église catholique près de Rouen. on a eu une réunion avec la préfecture, les responsables des associations 1905, pour voir quelles mesures prendre dans les églises, comment réagir en cas d'attentat. Ce qui semblait être quelque chose cantonné au tiers-monde, les attentats, les persécutions, ça arrive sur la probe maintenant. Alors il ne s'agit pas de paniquer. On en a parlé dans ces réflexions sur les peurs et les inquiétudes. Mais il s'agit de mener un combat spirituel. Il s'agit de prier. On a eu 86 personnes tuées le soir du 14 juillet et des suites de cet accident, de ce attentat. Dans Italie, il y a une dizaine de jours, d'un seul coup, il y a eu 250 morts. On a besoin de prier. La nuit dernière, à 9h15, il y a eu un tremblement de terre dans la région de Saint-Martin-de-Vésubie. Peut-être que certains l'ont ressenti à Nice, ça a été ressenti par certains. Moi, je pense qu'on était en voiture, donc on n'a rien senti. C'était un tremblement de terre de 3,6 sur l'échelle de Richter ou 3,2. Donc c'est normalement, il n'y a pas vraiment de dégâts, mais on le sent. La terre a tremblé pendant 4 secondes et nous vivons ici dans la région la plus exposée en France au tremblement de terre. Ce n'est pas la même faille que celle qui a causé la tragédie en Italie, mais nous avons besoin de prier. Dieu protège-nous. S'il doit y avoir un tremblement de terre, fait que nous soyons tous en train d'assister à un baptême sur la plage plutôt qu'être ici. Où là, on serait ratatiné et rapidement avec le Seigneur pour ceux qui sont sauvés. La prière. Jacques nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. La version second 21 dit que la prière du juste agit avec une grande force. Jacques nous dit ensuite que, nous cite l'exemple d'Élie, le prophète, pour nous dire qu'il a eu des réponses fantastiques à ses prières, mais qu'en fait, ce n'était qu'un homme de même nature que nous. Tous les hommes qui ont été utilisés par Dieu, et notamment ceux dont il est question dans la parole de Dieu, dans la Bible, étaient des hommes de prière. Un auteur contemporain a dit, bien qu'elle soit difficile et même épuisante, la prière, c'est la plus grande source de puissance possible. Nous devons prier pour être remplis de la puissance de Dieu, pour interagir avec tous les incroyants qui nous entourent. Nous prions pour être connectés avec Dieu, mais nous voulons prier pour la gloire de Dieu. La prière, ça doit être l'habitude des chrétiens, des gens qui croient en Dieu. Verset 6, il disait « quand tu pries », pas « si jamais tu pries », mais « quand tu pries ». Et puis, on s'adresse à notre Père. La prière, c'est un privilège pour l'enfant de Dieu. Souvent, lorsque on entend un message sur la prière, on sort intérieurement notre parapluie anti-culpabilité. Parce qu'on sait qu'on ne prie jamais assez, on sait qu'on ne prie pas assez régulièrement, on sait qu'on ne prie pas de façon juste. Mais ce passage devrait nous faire nous réjouir du privilège de la prière. On ne doit pas sortir d'ici en disant « Oh, c'est vrai, il faut que je prie plus, je dois prier davantage. » Même si c'est peut-être la vérité, Satan aimera bien vous faire sortir de là, d'ici, avec un sentiment de « Oh là là, c'est vrai, je ne prie pas assez, il faut que je commence demain matin. » puis demain matin quelque chose va se produire et vous allez avoir ce poids de culpabilité qui va vous étouffer. Au contraire, Dieu veut que vous sortiez d'ici en disant « C'est merveilleux, je peux prier, mon Père Céleste. Je peux en profiter. C'est quelque chose qui est un cadeau. Je peux être en communication avec Dieu. » Et ça, il est important ensuite de réaliser qu'il faut avoir cette attitude de petit enfant. Le petit enfant, laissez venir à moi les petits enfants, disait Jésus à ses disciples, car tel est le cœur de ceux qui entrent dans le royaume des cieux. La caractéristique principale d'un petit enfant, d'un tout petit enfant, avant 2 ans, c'est qu'il est dépendant de ses parents. Il admet qu'il ne sait pas faire les choses. Il est prêt à demander l'aide à son père, à sa mère, à ses parents. Et de la même façon, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, nous ne pouvons pas être impliqués dans un ministère par nos propres forces. On peut imaginer que si on a une église établie depuis longtemps, il y a une espèce d'inertie qui fait que les choses continuent de se passer même si on n'est pas directement en contact avec Dieu. Mais réellement, c'est dans la prière que l'on trouve les directions pour nos vies, pour le ministère, pour nos relations avec les autres. Et brièvement, parce qu'on va parler d'un autre texte, cette prière, encore une fois, elle se centre sur Dieu lui-même. Premier point, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste. Ça parle de la grandeur, de la souveraineté, de la transcendance de Dieu. Sa magnificence. Nous nous adressons à quelqu'un qui est fantastique, quelqu'un qui a des ressources infinies, quelqu'un qui a des projets qu'il veut vous communiquer, quelqu'un qui regarde toutes les nations de la terre et dit qu'elles sont comme une goutte d'eau. Ça, c'est dans Ésaïe 40 et les versets et chapitres suivants. Les nations qui persécutent les chrétiens, les fausses religions, tout ça c'est comme une goutte d'eau comparée à l'immensité de l'océan de la sagesse et de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on réalise à qui on parle, à qui on s'adresse lorsqu'on prie? Ou est-ce qu'on a la vision de un peu du distributeur de coca, quoi. Je mets ma pièce et j'obtiens une bouteille, j'obtiens une récompense. Je passe un peu de temps dans la prière pour demander à réussir mon examen, pour demander la guérison de telle maladie, la guérison d'un être cher. C'est pas des mauvaises choses en soi. On a vu qu'on peut prier pour toutes ces choses. Mais Dieu nous dit, rappelez-vous à qui vous priez, notre Père qui est aux cieux, qui est céleste, qui a créé l'univers entier, qui a mis en marche les galaxies comme d'une pichenette de la main. Deuxième point, c'est la sainteté de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous le considérons comme le seul véritable Dieu? Ou est-ce qu'on vient à lui lorsqu'on a épuisé nos autres ressources? On est allé voir nos amis, ils n'ont pas pu nous aider. On est allé voir l'assistante sociale. On est allé voir notre député pour obtenir une aide spéciale. Et puis finalement, tout ne marche, rien ne marche, donc finalement, on se tourne vers Dieu. Ou est-ce que on met à part son nom, c'est ce que veut dire le nom sanctifié, la sainteté de Dieu. Est-ce qu'on veut que Dieu soit connu pour sa grandeur? Son nom est sanctifié. On a eu des moments où Dieu nous a bénis de façon spectaculaire en réponse à des prières. Et notamment lorsqu'il s'est agi de savoir si l'on voulait, on avait loué, commencé à louer ces locaux, et on voulait savoir si on devait les acheter ou essayer de trouver des façons d'acheter ces locaux parce que le propriétaire allait les mettre en vente. Nous avions déjà investi, par la grâce de Dieu, près de 50 000 ou 60 000 euros, mais on n'avait pas beaucoup de ressources financières. Et là, on a décidé de se réunir un jeudi soir, pour expliquer à l'église, on n'était pas très nombreux à l'époque, une vingtaine, pour expliquer qu'on avait cette opportunité d'acheter ces locaux, le problème étant qu'on n'avait pas d'argent pour les acheter. Mais qu'avant de se lancer dans des recherches auprès de banques, auprès de solliciter des amis, est-ce qu'on allait dire oui au propriétaire, on est intéressé par vos locaux avant qu'ils les vendent à Lidl ou Leader Price ou une entreprise. C'était généralement ce genre d'entreprise qui était intéressée par des locaux de cette taille. Et on s'est dit, on va se réunir, on va prier pour demander le conseil de Dieu. Et donc, on a prié pendant une heure et on s'est dit, on va maintenant jeûner 24 heures, si vous le voulez, si vous pouvez. Pas de repas, à votre discrétion, c'est vous qui jeûnez, on ne va pas vous imposer une façon. Et puis on va se retrouver demain soir, vendredi soir, et on verra si le Seigneur nous a parlé, collectivement, en parlant à l'un, à l'autre, en impressionnant sur le cœur de quelqu'un un verset ou quelque chose. Et puis on s'est retrouvé le vendredi soir, et ce vendredi soir, force a été de reconnaître qu'en fait, les cieux étaient restés silencieux. Il n'y avait pas d'impression dans un sens ou dans un autre. Et donc on a dit, bon, mais Dieu, il n'est pas forcé de nous répondre en 24 heures. Continuons dans cette attitude de prière pour chercher le conseil de Dieu pour cette décision importante. Et voilà, on s'est quitté un peu penaud, je dois reconnaître. On était un peu déçus que Dieu n'ait pas répondu comme ça, de façon spectaculaire, rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le samedi matin, j'ai reçu un coup de fil. C'était les parents de deux étudiantes qui venaient à nos réunions du mercredi soir. C'était des étudiantes à Nice. On avait déjà rencontré les parents, mais ils ne venaient pas à l'église ici. On ne les connaissait pas très bien. Et donc, c'était Michel, le papa, qui me disait, « Pierre, voilà, je voulais t'annoncer qu'on va vous envoyer un chèque de 50 000 euros. » Wow. Et moi, toujours très, très humble et très prudent, je dis, écoute, c'est vraiment très généreux de ta part, mais pourquoi tu ne prends pas un peu plus de temps pour voir si c'est vraiment ce que Dieu veut que tu fasses? Il venait de faire un héritage et il voulait servir l'œuvre de Dieu. Ils avaient pensé qu'ils savaient qu'on avait ce dilemme. Et donc, il était prêt à nous envoyer 50 000 euros. Et je lui dis, mais tu prends ton temps. Il a dit, non, c'est bon, c'est décidé. Je lui dis, mais comment tu peux être aussi sûr? Il dit, mais c'est intéressant parce que ma femme, en se réveillant ce matin, m'a dit, je crois qu'on doit donner 50 000 euros à Calvary Chapel. C'est là qu'on commence à avoir la chair de poule. Et on se dit que Dieu est toujours Dieu. On peut bien sûr prier pour qu'il bénisse les spaghettis, mais si on cherche à le glorifier en établissant une église, en lui demandant de nous aider pour voir la direction qu'on doit prendre, il peut répondre de façon spectaculaire. Et donc, le dimanche matin, je me suis retrouvé ici et j'ai annoncé à l'église que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous, on le shrink down, on le réduit à notre petite vision des choses. Mais si on se rappelle qu'il est notre Père céleste, 50 000 euros, c'est rien du tout pour lui. Et j'étais ému aux larmes de pouvoir dire. On a prié 24 heures et Dieu répond de cette façon. Qu'est-ce qu'on fabrique à ne pas prier? Et bien sûr, les gens ont dit, bon, ben, on va prier 3 jours, comme ça fera 200 000, on peut... Bien sûr, c'était des plaisanteries, mais je ne peux pas vous dire comment la foi de l'Église a été fortifiée. Dieu peut répondre. Encore faut-il qu'on cherche sa volonté, qu'on cherche à ce que son nom soit sanctifié. C'est son nom qui a été glorifié. Suite à ça, on a décidé donc de poursuivre. Ça nous a donné un petit montant d'argent pour chercher un prêt. Là aussi, Dieu a fait des miracles. On a rencontré le banquier chrétien en France, vraiment chrétien, qui est venu nous voir l'été suivant. Pour voir si... Parce qu'au fur et à mesure qu'on attendait, le prix des locaux augmentait. Alors 50 000, c'était bien, mais c'était qu'un début. Et puis, il a fallu donc que ce banquier nous voie et qu'il nous fasse confiance. On a pu avoir un prêt de 300 000 euros. 300 000, 350 000, et on devait avoir 10 000 en économie partagée. On était encore loin du compte des 460 000 euros qui étaient demandés. Mais là aussi, Dieu a répondu par l'intermédiaire d'amis dans l'Église, d'amis de personnes dans l'Église, qui se sont dit, tiens, on a fait un héritage, on aimerait glorifier Dieu. Est-ce que vous connaissez un ministère qui pourrait bénéficier d'un don? Et ces personnes ont dit, oh oui. Et on a pu obtenir les fonds pour acquérir ces locaux. Maintenant, on rembourse le prêt, et Dieu merci, il continue de pourvoir. Lorsque Dieu commence une œuvre, il ne s'en détourne pas en disant « j'ai fait une erreur ». Dieu veut implanter des églises, il veut que sa parole soit connue dans cette ville, dans cette région. Il veut qu'on prie pour des ouvriers dans la moisson. Il veut qu'on prie pour aider les victimes des attentats, les victimes des séismes. Il veut nous protéger, il veut nous bénir, il veut nous encourager. Mais nous, on lui demande de bénir les spaghettis avant le repas. Que ta volonté soit faite. Verset 10. Dieu a des désirs. Nous pouvons aller à lui, lui demander que veux-tu ? Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que nous fassions ? Avec qui et comment ? Que ton règne vienne. Ne prions pas pour notre propre petite chapelle. Seigneur, bénis Calvary Chapel pour que ce soit enfin reconnu comme la plus grande, la plus spirituelle des églises de France. C'est ridicule. Nous avons des frères et sœurs qui ont autant de conviction, de foi, d'engagement, d'amour pour Jésus, qui servent dans cette ville. Nous prions pour eux. Nous allons les retrouver cet après-midi. On prie pour son royaume, pas pour le nôtre. Quand on a cette mentalité étriquée de penser que si ce n'est pas nous qui voyons quelque chose se passer, à la gloire de Dieu, c'est sans doute pas légitime. Ah non, si c'est chez les baptistes que ça s'est passé, on sait que c'est un vieux mouvement, c'est pas... Non, il faut vraiment avoir à cœur de parler de Jésus-Christ, de son royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ça parle de la gloire de Dieu dans sa provision, dans sa providence. Il s'honore en pourvoyant à nos besoins. C'est vivre par la foi que de lui demander le pain quotidien. Et la foi, ça glorifie Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, ça parle de la miséricorde de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour nous, pour moi, pour nous, mais aussi pour les autres. Sa grâce est immense. Il est capable de pardonner les offenses de quiconque vient à lui. Verset 13, ne nous expose pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, dans la tentation. Dieu nous dirige. On peut demander à Dieu ce qu'il veut que nous fassions. Et c'est toujours spécial de voir comment Dieu orchestre les choses. Sur le moment, on n'est pas conscient des choses qu'il est en train de tisser. Mais quand on a un peu de recul, on s'aperçoit comment il a mis des personnes en relation, comment il a agi pour que des choses se passent. Souvent la question de savoir est-ce que Dieu a une personne pour moi dans un mariage futur ? Certains disent que oui, il y a une seule personne dans tout l'univers, il faut la trouver. D'autres disent non, celle-là était bien, mais si ça avait été avec une autre, ça aurait été avec une autre, mais ça n'a pas été avec une autre. Et Brian Bridgerson faisait remarquer, c'était intéressant, il savait que lui, c'était sa femme, Cheryl, avec qui il devait se marier. Pourquoi ? Parce qu'il voyait ses enfants. Et quand je vois Daphné, je sais que Tonio et Lindsay devaient se rencontrer à une conférence en Autriche. Dieu était en train d'organiser les choses. Dieu dirige. Dieu nous guide. Et puis, délivre-nous du mal ou du malin, ça part de la puissance de Dieu. Paul disait aux Thessaloniciens qu'il voulait aller les encourager, mais qu'il avait été retenu par Satan. Empêché par Satan à une ou deux reprises. Et puis verset 13, le règne, la puissance et la gloire. Ce que nous devons rechercher dans la prière avant toute chose, c'est la gloire de Dieu. Et nous pouvons vraiment remercier Dieu de ce privilège de la prière et nous dire qu'on a cet incroyable privilège de nous rencontrer, de prier ensemble. La chose qui glorifie le plus Dieu, sans doute, ou une des choses qui le glorifie le plus, c'est lorsque des gens sont sauvés, lorsqu'ils viennent, les ténèbres, ils passent à la lumière de Christ. Nous pouvons vraiment nous réjouir, anticiper. Est-ce que nous venons à nos réunions de prière en se disant « Dieu va répondre de façon spectaculaire qui vont le glorifier ?» Ou est-ce qu'on fait la liste ?« Prie pour Tata Marie, pour un ami de mon collègue au travail qui ne va pas bien en ce moment. » Alors, c'est pas, je ne veux pas dénigrer ce genre de prière, mais encore une fois, est-ce que nous prions pour l'Église, par exemple ? Est-ce que nous prions pour que cette Église soit saine dans sa doctrine, pour qu'elle ait des ouvriers qui s'y impliquent, pour qu'elle ait un impact avec les autres églises, pas qu'elle soit la plus forte? Est-ce que nous prions pour que Dieu nous utilise? Est-ce que nous prions pour que Dieu nous montre comment impacter la ville, comment avoir des relations privilégiées avec des autorités qui peut-être pourront nous aider à faire avancer l'Évangile dans la ville de Nice et dans la région? Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas, nous dit Jacques. Le second message parlait, et je vais être rapide, ne vous appelez pas, le second message par John Shubik, qui est maintenant le pasteur des missions, qui a remplacé Phil Twent, qui est venu plusieurs fois ici à Nice, pour l'église de Calvary Chapel, ils ont près de 200 missionnaires par le monde entier. Il nous rappelait lui aussi que l'église, c'est une possibilité, c'est une impossibilité à vue humaine. Et qu'on peut dépendre des ressources humaines, si on est une église établie depuis longtemps, si on a des gros budgets. On peut continuer de fonctionner sans avoir à dépendre du Saint-Esprit, sans avoir à dépendre des ressources du ciel, sans avoir à dépendre des ressources de Dieu, du Saint-Esprit, mais qu'en fait c'est un endroit dangereux parce que c'est seulement lorsqu'on dépend pour notre survie, pour notre propre vie, lorsqu'on dépend des choses spirituelles qu'on va voir Dieu agir. Tant qu'on a un plan B, si Dieu ne me guérit pas, j'irai acheter de l'aspirine. Pourquoi est-ce que Dieu se... Il le peut, bien sûr, mais... La prière, c'est... On l'a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Et le mot de gloire, en hébreu, Kavod, c'est ce qui est lourd, ce qui pèse, ce qui vaut la peine. Ça s'oppose à la vanité des vanités dont on parlait avec l'Ecclésiaste. Et ce qui est intéressant, c'était que ce pasteur, John, nous encourageait à réaliser que la réunion la plus importante, c'est pas la réunion du dimanche matin, c'est la réunion de prière. Parce que la prière, c'est vraiment la clé du ministère. Et c'est pas grave si tout le monde n'y participe pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des personnes qui aient cette vision de prier pour la gloire de Dieu, pour que l'Église rejoigne la gloire de Dieu, soit utilisée pour cette gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de prier sur des tas de sujets. Il avait une illustration très puissante que je souhaitais partager ce matin. Je sais qu'un des versets qui m'a beaucoup encouragé à venir en France, je savais que il y a beaucoup de résistance dans la culture française avec le passé philosophique, le passé politique, le passé culturelle de la France contre l'Évangile. Nos responsables politiques ont même insisté pour qu'il n'y ait pas de référence à la foi chrétienne dans la Constitution européenne. C'est dire la stupidité de ces gens et l'endurcissement de leur cœur. Il y avait ce verset dans Jérémie qui dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui fait sauter, qui brise les rochers. Et pour moi, la parole, c'était cet instrument qui allait utiliser, Dieu pouvait utiliser pour briser le cœur rocailleux des Français. Et la prière, c'est aussi cet instrument pour faire casser, pour faire éclater la dureté des cœurs, la dureté de l'incrédulité française d'aujourd'hui. Et ce pasteur nous expliquait que quand il était plus jeune, il avait travaillé dans une entreprise de travaux publics, une petite entreprise, et que souvent il se retrouvait à avoir à briser des dalles en béton. Il n'avait pas de marteau piqueur, donc ce qu'il prenait, c'était une grosse masse, et il devait frapper sur le béton pour arriver à le casser. Et là, il nous expliquait qu'en fait, pour casser du béton avec une masse, il ne s'agit pas de donner un coup ici, puis de dire « ah, ça n'a rien donné », d'aller à côté et de donner un grand coup de masse ailleurs. Non, il expliquait que pour casser du béton, il fallait répéter les coups au même endroit. Jusqu'à ce qu'il y ait une petite étoile qui se fissure dans le béton. Et là, on ne s'arrête pas, on continue, au contraire. Et finalement, des morceaux commencent à se désagréger, et là, la partie est gagnée. Et il donnait cette illustration pour dire que lorsque l'on prie, nous devons prier avec répétition et insistance, et pas sur 36 sujets à la fois, ce que nous avons tous tendance à faire. Alors, après, comment on vit ça dans les réunions de prière, je crois que c'est important de ne pas faire des grandes listes d'abord, de pouvoir donner un sujet ou deux, mais avoir des sujets importants, des sujets parlant de casser le béton de l'incrédulité de nos contemporains, le béton des difficultés administratives pour établir, le béton de trouver des gens qui sont prêts à s'engager, à vivre dans le ministère. Trouver des ressources pour des jeunes qui voudraient s'impliquer dans le ministère, qui voudraient vivre dans le ministère. Comment on peut prier pour ces choses-là? Alléluia. Et puis, il nous disait, bien sûr, la réunion de prière, c'est jamais parfait. Même si on a le désir de prier de façon efficace pour la gloire de Dieu. Et surtout, le danger, c'est de dire « bon, ben, ça ne marche pas, on abandonne ». Et on a été un peu victime de ça, coupable plutôt, de laisser un peu filer la réunion de prière par moment, parce que il y avait peu de monde ou qu'on n'était pas tous sur la même longueur d'onde. Mais là encore, il utilisait une superbe illustration. Et il disait, imaginez que vous êtes un scaphandrier à la façon de Rackham le Rouge, de Tintin, avec la grosse bulle autour de la tête, le gros casque de scaphandre, les semelles de plomb, pas le scaphandre à la Jacques-Yves Cousteau avec les palmes légers, tout ça. Et vous êtes relié à votre bateau qui actionne une pompe pour vous envoyer de l'oxygène. Et puis vous vous dites, le tube de mon scaphandre qui me relie au bateau et à l'air libre, en fait, il est vieux. Il a été recollé il y a je ne sais pas combien de fois, il y a plein de rustines. Il n'est pas beau, les rustines sont des couleurs différentes, il y a des endroits, on a l'impression qu'il va éclater. Et il disait que abandonner, négliger, laisser tomber la réunion de prière de l'Église, ça consisterait à dire, parce que le tuyau n'est pas tout neuf, pas parfait en néoprène de grande qualité, dernier cri, je rejette, je débouche ce tube et je le fiche en l'air. Non, si vous êtes en bas, vous avez besoin de l'air qui vient d'en haut. Et de la même façon, l'Église et nous tous, nous avons besoin de cette relation avec notre Père Céleste, avec l'Esprit qui nous anime, l'Esprit qui vient nous guider, nous fortifier, qui vient répondre à nos prières. Nous pouvions prier pour, encore une fois, pour l'Église, qu'elle soit efficace, qu'elle soit belle. Pas nécessairement qu'elle soit grande en nombre, mais qu'elle soit profonde en relation avec Dieu, qu'elle ait un impact, une influence. Et ça, c'est un combat qui est digne d'être mené. Prions. Seigneur, merci pour ces rappels que nous avons reçus, que j'ai reçus en Autriche, que j'ai essayé de communiquer sur le fait que la prière, c'est vital. La prière, c'est notre ligne de survie, Seigneur. Sans elle, nous ne pouvons pas fonctionner comme des vrais chrétiens, Seigneur. Nous pouvons faire semblant, nous pouvons taper dans les ressources humaines, mais nous ne pouvons pas être au bénéfice de tes ressources infinies, Seigneur, pour faire ta volonté et te glorifier. Je te prie, Seigneur, alors que nous reprenons nos réunions le mardi et le mercredi, que tu nous aides à avoir ces remarques à l'esprit et à chercher à te glorifier et à vraiment prier selon ta volonté, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Merci pour le privilège. Aide-nous à ne pas être encore une fois sous le poids d'une culpabilité voulue par l'ennemi, mais soulevé par la joie d'une vérité donnée par le Saint-Esprit que nous avons le privilège de pouvoir venir te parler, Seigneur, de pouvoir venir chercher à faire ta gloire, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.